Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Un soldat camerounais a été tué et 4 autres blessés mardi dans une embuscade tendue dans le nord du pays par des éléments de Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source militaire tchadienne. Selon cette source, l'armée tchadienne a évacué les blessés par hélicoptère à N'Djamena et les assaillants ont emporté le corps du soldat camerounais tué. L'attaque a eu lieu entre Fotokol et Kousséri dans la région de l'extrême nord du Cameroun, voisine du Tchad, où les incursions du groupe djihadiste sont fréquentes. Des unités militaires du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger, regroupées au sein de la FMM, la force multinationale mixte, combattent Boko Haram conjointement dans la région du lac Tchad depuis 2015. Vendredi dernier, au moins 5 civils nigériens ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Et le même jour, un soldat tchadien a perdu la vie dans un accrochage avec des combattants du groupe djihadiste dans la région du lac Tchad. En République démocratique du Congo, la justice congolaise a annoncé mardi avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre dans le pays. Le chef des parquets congolais a aussi souligné son intention de faire un procès à Moïse Katumbi dans une affaire de recrutement de mercenaires, notamment un ancien militaire américain, pour déstabiliser les autorités de la RDC. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre, M. Katumbi a lancé sa plateforme électorale le 12 mars à partir de l'Afrique du Sud pour l'élection qui devrait permettre d'organiser le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, à qui la constitution congolaise interdit de briguer un nouveau mandat. RDC toujours retour sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prolongeant et renforçant le mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, en vue des élections et d'une passation pacifique du pouvoir à la tête de l'État. Edi Sango a recueilli l'analyse du professeur en sociologie politique à l'université de Kinshasa, Kalele Kabila.
C'est déjà vu, il n'y a rien de nouveau. Ce qui pourrait paraître comme un élément nouveau, c'est un problème des élections, appui aux élections. Je pense que pour ceux qui intéressent les Congolais, les élections, nous en avons eu en 2006, nous en avons eu en 2011. En 2016, on a parlé aussi des élections, elles n'ont pas eu lieu. 2006-2011, elles n'ont pas été transparentes. Au contraire, on a même nommé les gens. Il y a beaucoup de députés nommés qui siègent. Pour cette fois-ci, l'évolution de la situation, nous ne voyons pas comment ces élections vont avoir lieu dans la transparence. Ça risque d'être comme les fois précédentes. Vous avez l'accord de la Saint-Sylvestre 2016 qui parle des mesures de décrispation. Ces mesures ne sont pas appliquées. Il y a insécurité partout. Ça, ce sont des déclarations qui nous paraissent classiques, mais nous avons besoin de quelque chose de concret sur le terrain.
Une résolution précédente mentionnait déjà les élections. Comment voyez-vous la MONUSCO contraindre les gouvernements congolais, par exemple, à respecter la date du 23 décembre?
Nous restons très sceptiques, c'est pour cela que je disais, c'est du déjà vu. Mais si le mandat de la MONUSCO n'a pas changé, comment elle peut exercer d'autres pressions sur le gouvernement congolais? D'autant plus que quand il y a des manifestations et qu'elles s'approchent, on voit les troupes congolaises l'en empêcher. Nous ne voyons pas concrètement ce que ça change, ce que ça va faire sur le terrain. Si ça reste toujours une mission d'observation et non pas une mission d'imposition de la paix.
Cette fois-ci, la résolution est assez précise, demandant à M. Guterres de préparer un plan de contingence qui pourrait accepter l'envoi des troupes, des missions qui sont aux alentours en cas de problème.
Le problème, ce n'est pas le problème du nombre. On se plaint déjà que le nombre qui est ici est pléthorique. Mais si la mission confiée à ces troupes là-bas ne change pas, on peut faire 50 000, 100 000, ça rime à quoi?
devra-t-elle se retirer comme le demande le gouvernement?
Progressivement, dans le sens où il faut que le gouvernement parvienne à assumer ses responsabilités. C'est nécessaire, le gouvernement n'en a pas les moyens. Mais nous doutons très fort de la volonté du gouvernement d'organiser les élections.
Kalele Kabila, professeur de sociologie politique à l'Université du Kinshasa, en RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le PDCI, plus vieux parti du pays, est membre de la coalition au pouvoir avec le RDR, qui a raflé la majorité des sièges aux élections sénatoriales du week-end dernier, réclame une nouvelle commission électorale avant l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI rejoint ainsi l'opposition qui a lancé un appel similaire. Gaby Dorsil.
Jamais le PDCI n'avait adopté pareille position, en tout cas pas publiquement. Pour le parti de l'ex-président Henri Conan-Bédié, il est impératif d'avoir une commission électorale capable de rassurer quant à la crédibilité du scrutin. Le porte-parole adjoint du PDCI, Jean-Louis Billon, soutient que l'actuelle entité électorale ne répond plus à la réalité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Sans une commission crédible, on risque de s'enfoncer dans une nouvelle situation de crise, prévient l'ancien ministre du Commerce. La position du PDCI, un allié du président Alassane Ouattara, n'est pas différente de celle affichée par l'opposition, qui a même brandi l'arme du boycott au cas où une commission n'est pas établie sur une base consensuelle avant les prochaines échéances électorales, les municipales et les régionales, avant la fin de cette année. Aucun signe jusqu'à présent que le gouvernement ivoirien pourrait se laisser fléchir. Le Premier ministre Amadougon Koulibaly a rejeté l'idée de renvoyer l'actuelle commission électorale, rappelant qu'elle est le résultat d'un accord entre les principaux acteurs politiques.
La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux des principaux producteurs mondiaux de cacao, ont signé ce mercredi à Abidjan un accord visant à améliorer le prix d'achat de la fève aux producteurs et faciliter la lutte contre la contrebande. Selon le document, Abidjan et Accra s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Objectif, essayer de rapprocher les prix dans les deux pays, a souligné Yves Conné, président du conseil du Café Cacao, l'organe de régulation de la filière en Côte d'Ivoire. La différence de prix payée aux producteurs des deux côtés de la frontière des deux voisins encourage la contrebande, source de tension entre les deux pays. Éthiopie, la coalition au pouvoir dans le pays a choisi mardi comme nouveau leader et donc prochain Premier ministre, Abiy Ahmed. Décision considérée comme un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu et qui a été pour beaucoup de la démission de son prédécesseur à la tête du gouvernement. Monsieur Abiy devrait donc succéder au Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn qui a rendu son tablier en février. Il deviendra ainsi le premier chef du gouvernement appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays, depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF, l'équipe dirigeante actuelle, en 1991. En Égypte, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour le troisième et dernier jour d'un scrutin présidentiel où le taux de participation est l'unique enjeu. Faute de compétition sérieuse face au président sortant Abdel Fattah al-Sissi, qui brigue un nouveau mandat. Le chef de l'État, élu en 2014, a pour unique adversaire Moussa Mustapha Moussa, peu connu du grand public et partisan affiché du régime actuel. Selon l'agence Reuters, un certain nombre d'électeurs disent avoir reçu de l'argent, des vivres et autres cadeaux pour voter. Le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril. Suite de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe au Royaume-Uni, l'OTAN a annoncé de nouvelles représailles contre la Russie, mais Moscou déclare préparer une riposte. Claire Morin-Gibault.
L'OTAN a annoncé hier qu'elle avait décidé de retirer leurs accréditations à 7 membres de la mission russe et de rejeter 3 demandes d'accréditation supplémentaires. Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, c'est un message clair adressé à la Russie. Les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences, a-t-il déclaré. Ces mesures s'ajoutent aux 121 expulsions déjà décrétées depuis lundi par 26 pays, dont les États-Unis et 18 membres de l'Union européenne, dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental, sans précédent même du temps de la guerre froide. Moscou, qui nie être à l'origine de l'empoisonnement, a promis de contre-attaquer. « Nous allons riposter, n'en doutez pas », a prévenu mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Et pour terminer, la Russie reste ouverte à une rencontre entre le président Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, évoqué par les deux chefs d'État lors d'une conversation téléphonique la semaine dernière. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.